Europe 1.
Il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Aujourd'hui, notre écrivain est une journaliste, mais qui écrit comme une romancière. Vous verrez, nous visiterons la bibliothèque, la vaste bibliothèque de Frédéric Mitterrand. Anne Burzinski, notre libraire de Vaucresson, nous donnera quelques bons conseils. Et Sébastien Bordenave fermera la boutique avec deux bandes dessinées. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. Et laquelle ? La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas une romancière stricto sensu que je reçois aujourd'hui, mais une journaliste. Oui, mais une journaliste qui a du style. Elle vient de publier au Seuil Le Grêlé, le tueur était un flic, l'histoire du tueur et violeur François Vérove, qui a échappé à la justice pendant 35 ans. Il a sévi dans les années 80 et 90. La police a réussi à dresser son portrait robot. Les journalistes de l'époque lui ont trouvé un surnom, Le Grêlé, à cause de la peau de son visage constellée d'imperfections. Mais on n'a jamais réussi à l'identifier jusqu'en septembre dernier. Mais trop tard, il s'était suicidé. Et comme souvent, finalement, il n'avait pas du tout le profil d'un tueur. Il vivait tranquillement, bien inséré, dans l'Hérault. Tous les policiers à ses trousses depuis toutes ces années sont tombés de leur chaise. Et une journaliste qui suit l'affaire depuis très longtemps, elle a écrit ce livre avec la rigueur journalistique, tous les détails de l'enquête, certes, mais aussi avec les techniques du roman. Voilà pourquoi je l'invite. On en sort un peu groggy de ce livre, scié par la duplicité humaine. Bonjour Patricia Touranchot.
Bonjour.
Ça me fait plaisir de vous recevoir.
Bah moi aussi, ça fait longtemps.
Donc j'invite la plupart du temps que des romanciers, mais vous avez une manière d'écrire, je trouve, qui se rapproche des techniques du roman, même si bien sûr vous êtes spécialiste des faits divers et donc des histoires qui ne sont malheureusement pas inventées.
Mmh. Moi, je prétends pas être Truman Capote, qui a fait un chef-d'œuvre de sang-froid, mais... Je pense que je m'inspire un petit peu de ce style de récit, de narrative non-fiction, et qui est de retracer le fait divers dans toute sa dimension, et puis d'essayer d'avoir une écriture à peu près bien, quoi.
Oui, parce que vous vous placez plutôt quand même à la frontière, mais plutôt côté journaliste. C'est-à-dire que chez Truman Capote, par exemple, et dans ces livres-là, il y a un point de vue subjectif assumé. Mmh. Vous, vous êtes vraiment quand même dans l'enquête.
Oui.
Vous vous interdisez de... On vous sent dedans, vous incarnez le livre, mais vous ne vous mettez pas en scène non plus.
Ouais, j'aime pas trop utiliser le jeu. Et du coup, je ne le fais que dans le prologue. Et de temps en temps, des petites touches de questions que je me pose au fil de l'enquête. Mais j'aime pas trop me mettre en avant. Je préfère m'effacer derrière l'histoire, qui est quand même assez incroyable et qui vaut toutes les fictions. Donc, je ne vois même pas pourquoi... Enfin, jamais je serai romancière, je crois, parce que cette réalité-là, elle est plus forte que la fiction. Elle a tous les ingrédients, tous les rebondissements naturels de l'histoire. En fait, il n'y a pas besoin de les inventer.
Qu'est-ce qui vous fait vous intéresser à un fait divers plutôt qu'à un autre ? Par exemple, vous n'avez jamais écrit sur Dupont de Ligonnès, enfin, en tout cas pas un livre.
Parce que je n'ai pas le temps de tous les faire. Dupont de Ligonnès m'aurait bien intéressé aussi. Mais j'aime choisir... souvent ce sont des énigmes. Souvent, Dupont de Ligonnès s'en est une aussi. Il faut une histoire forte, avec beaucoup de rebondissements et donc beaucoup de fausses pistes. Et il faut des hommes, des femmes, enfin des humains très forts, des personnages très forts. Et là, dans Le Grêlé, que ce soit les anciens enquêteurs du 36 Quai des Orfèvres, que ce soit les victimes, une petite victime comme Ingrid qui a été kidnappée à 11 ans en 94 et puis violée pendant 2 heures par ce type qui témoigne, le frère d'une autre victime, et puis à la arriver évidemment le tueur lui-même, ce sont vraiment des personnages très forts, enfin qu'il faut décrire, dont il faut pas seulement raconter l'histoire, mais aussi les émotions.
Celle-ci, c'est une histoire dense et qui s'inscrit dans la durée.
Europe 1. Un bon père de famille, un bon grand-père, c'était l'image, jusqu'à il y a quelques jours encore, de François Vérove, 59 ans, avant que les enquêteurs ne découvrent, grâce à l'ADN, qu'en réalité ce monsieur tout le monde avait été un tueur et un violeur en série qui s'en était pris également à des enfants. Il s'est suicidé en laissant une lettre d'aveu. Il était celui que dans les années 80 et 90, on avait surnommé le Grêlé à cause de sa peau acnéique.
Voilà, c'était l'annonce sur Europe 1 de cette nouvelle en automne dernier. Comment vous réagissez, vous qui suivez cette affaire depuis 1986 et vous avez peut-être pas dès le début,
non,
mais
pas dès le début.
Enfin depuis des années, en tout cas, vous aviez même le portrait robot de l'époque que vous avez donné à la société de presse.
Non, ils ont voulu le prendre. C'est-à-dire que quand intervient ce dénouement, en fait, de l'énigme d'un tiers de siècle, le 30 septembre, moi, je suis comme une dingue, je reçois un coup de fil, on me dit un type a été arrêté, c'est possiblement le grêlé, il faut attendre l'ADN ce soir, etc. Et moi, je suis dans un état d'euphorie, mais dingue. Donc, je prends des cafés, je grille plein de cigarettes, j'essaye de me calmer. Je me dis, attention, dans cette histoire du grêlé, il y a eu des tas de types de suspects au profil idéal et ce n'était pas eux, donc tu te calmes.
Vous aviez déjà ressenti ça avec une fausse information?
Non.
Pour cette histoire-là?
Non, franchement, je sentais, et mes interlocuteurs, enfin, je sentais que cette piste, elle était très très bonne, que c'était celle-là. Mais bon, et je suis allée rechercher ma boîte, j'ai une boîte archive rouge.
Oui, dans
rouge.
Votre boîte archive, vous dites. C'est un bureau de détective, en fait, c'est... votre bureau.
Ouais, c'est un bureau de, je sais pas, de journaliste, écrivain, fouineur, enquêtrice, je sais pas. Mais j'ai une boîte que j'aime beaucoup, qui est rouge, et puis elle est marquée le grêlé cold case. Et dans cette boîte, évidemment, j'en ai plein sur le grêlé, d'autres boîtes. Mais celle-ci, dans celle-ci, j'entassais tous les témoignages qui m'arrivaient depuis 7 ans. Que vraiment je laboure cette histoire. Et donc tous les témoignages de gens qui croyaient qu'on était suspect, qui dénonçaient leur père, qui pensaient que c'était leur collègue de travail, des pistes que j'avais vérifiées, dont certaines me paraissaient intéressantes, donc je les avais transmises à la CRIM. Et donc je rouvre cette boîte le 30 septembre, et là je tombe sur le premier avis de recherche du grêlé, 14 mai 86, avec le premier portrait robot dessiné par le frère de la première petite victime et ses voisins. Et bêtement, en fait, j'envoie ça sur Instagram avec la photo de ma boîte rouge et cet avis de recherche. Et quand l'agence AP m'appelle pour me l'acheter, là, je dis mais non, et je vends pas ce genre de pièce. En plus, c'est une pièce de l'instruction, j'ai fait n'importe quoi. Et parce que je n'étais pas dans mon état normal. Et du coup, j'ai retiré la photo de tout de suite de cet avis de recherche. Je ne l'ai pas vendu, quoi. Mais j'étais dingue jusqu'à 23h30 où à ce moment-là, l'analyse ADN, on a l'annonce que l'ADN a matché et que le grêlé, c'était bien François Vérov.
Et puis vous appelez, et puis vous recevez des appels ou des textos des flics de l'époque que vous connaissez, de vos contacts et aussi des protagonistes de l'affaire.
Oui, bien sûr. Le frère de Cécile Bloch.
La première victime.
L'enquêteur de la première heure, Bernard Pasqualini, qui était chef de groupe à la CRIM et qui, pendant des années, c'est lui qui m'en a parlé le premier fin 90 de cette affaire. Et le pauvre, il était hanté par cette histoire au point de se dire « Quand je vais mourir... »
Il aura la photo du grêlé, du portrait robot.
Dans sa tête. Et la photo de la petite Bloch. Et donc, je me disais, c'est incroyable, quoi, avant de rendre l'âme, il va penser à ça, c'était fou. Et donc, lui, je l'appelle, il ne voulait pas croire que ça pouvait être un type comme François Vérov, qui était donc gendarme à la garde républicaine dans les années 80, quand il tue Cécile Bloch et qu'il essaye de tuer, qu'il viole une autre petite fille, Sarah. Et il ne veut pas le croire. Et sans l'analyse ADN le soir, il ne l'aurait jamais cru.
Justement, on va revenir sur cette affaire. On ouvre votre livre, Le Grêlé, le tueur était un flic au seuil. À tout de suite.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Patricia Touranchot qui signe Le Grêlé. Le tueur était un flic aux éditions du Seuil. L'histoire donc de François Vérov, alias Le Grêlé, tueur en série, violeur, incroyable monstre en fait, qui a toujours échappé à la police et qui a été identifié en automne dernier, qui s'est suicidé avant d'être attrapé. Mais donc l'ADN a parlé et c'est lui, il a même laissé une lettre pour expliquer ses crimes.
Enfin, oui, elle est incroyable, la lettre.
Pour
qu'il
dire que c'était bien lui.
Oui, elle est incroyable, la lettre.
On en lit des extraits dans votre livre, d'ailleurs.
Ah, oui, oui. Et la fin est incroyable, enfin, parce qu'il avoue, en fait, à sa femme qu'il a été ce grand criminel qui a détruit des enfants, qui a tué des innocents. Et à la fin, il dit qu'il s'est arrêté après une thérapie en 97. Et il dit à sa femme et à ses enfants, « Je vous aime plus que tout au monde. » Et je déteste ce criminel que j'ai été. Eh ben ça, moi, ça m'a laissé
Et surtout, on ne sait pas de quel crime il parle entre, je crois, 94 et 97.
Et 97, voilà.
Il dit qu'il s'est arrêté en 97, mais on ne savait pas qu'il y avait eu des crimes du grêlé entre 94 et 97.
Officielle,
c'est assez terrifiant, ça.
Oui, ça s'arrêtait pour l'enquête officielle en juin 94. Et là, il y a 3 ans donc, de crimes possibles à trouver, quoi.
Alors revenons au début de l'affaire. 1986, la jeune Cécile Bloch est retrouvée morte dans le sous-sol de son immeuble du 19e arrondissement de Paris. Elle a été violée. L'équipe du 36 de Bernard Pasqualini est dépêchée sur place. D'ailleurs, coïncidence incroyable, un des membres de l'équipe habite à cette même adresse. Donc c'est l'horreur quand ils arrivent. Mais ce qui est presque aussi fou, c'est que dans cette affaire de tueur insaisissable pendant 35 ans, en fait, il est tout de suite identifié. C'est-à-dire que depuis 86, on a son portrait robot, grâce notamment au témoignage du frère de Cécile Bloch. Et robot incroyablement ressemblant, maintenant qu'on sait qui c'est.
Oui, mais ce qui est dingue, effectivement, c'est que quand même, ce type, avant de tuer la petite fille dans les sous-sols, il a passé presque une heure à faire le yo-yo dans l'ascenseur pour trouver sa proie. Et c'est comme ça que le frère aîné de la petite Cécile Bloch, qui prenait l'ascenseur pour aller faire ses études de biologie, pour aller à la fac, a passé du temps avec ce type et n'a réalisé bien évidemment qu'après. Après l'assassinat de sa petite sœur, quand la brigade criminelle, Pasqualini, Huesca, quand ils étaient sur place chez lui et que les policiers demandaient à la famille « Vous n'avez pas perçu quelqu'un, quelque chose de bizarre et tout ?» que Luc Bloch s'est souvenu effectivement du visage de ce type et qu'il l'a dessiné. Alors, il est ressemblant, sauf les boutons. Et ça, c'est un peu bizarre. Il a réellement eu des boutons, ce type, dans l'ascenseur à ce moment-là. Sauf que les victimes suivantes ne remarqueront pas de peau grêlée, mais une peau à peu près normale. Et du coup, ça va un peu fausser le portrait robot et le nom, le pseudo qui a été donné à ce tueur en série va fausser un peu les recherches.
Et puis vous expliquez aussi dans votre livre qu'un portrait robot, même si ça ressemble, quelqu'un qui connaît la personne ne va pas forcément le reconnaître parce que ce n'est pas la même intention, forcément. Et vous citez une autre affaire, celle de Janet Marshall, une Britannique qui avait été assassinée. On avait le portrait robot. Un type qui connaissait le tueur avait vu le portrait robot et pourtant il ne l'a pas reconnu parce qu'il n'y avait pas cette haine qui se dégageait du type que lui connaissait, évidemment.
Exactement.
Alors que le portrait robot, lui, nous montrait un tueur méchant.
Oui, oui. Et c'est parce que les victimes directes d'un violeur, comme Marianne, victime du grêlé. Alors Marianne, elle a dessiné un portrait robot très sombre, beaucoup plus sombre que le premier, avec un menton plus en galoche, avec des yeux cernés, très enfoncés, très très noirs, très durs. Effectivement, parce que Ingrid, qui a été violée aussi par le grêlé, va reconnaître 7 ans plus tard ce même portrait robot. Et en même temps, parce que évidemment, elle le voit sous son très mauvais jour, quoi. Elle le voit dans toute la noirceur que peut être une agression ou un viol. Alors que Luc Bloch et les voisins, ils ont vu le type sous son bonjour, avenant, qui était même presque trop poli, obséquieux, qui a dit à Luc Bloch « Passez une très bonne journée, monsieur ».
Donc,
ils ne peuvent pas dessiner, effectivement, restituer le même visage.
Et puis, ce qui est fou, c'est que c'est comme s'il essayait de se faire choper, quoi. C'est-à-dire qu'avec Luc Bloch, effectivement, Luc Bloch l'a remarqué, notamment parce qu'il a été beaucoup trop obséquieux, il en a fait trop. Il montre une carte de police, parfois, dans ses crimes, alors qu'il est lui-même policier.
Mais il a un aplomb phénoménal aussi. Il a une... je ne crois pas que ce soit tant qu'il essaye de se faire choper, mais en tout cas, il défie tout le monde. Et quelqu'un qui reste sur une scène de viol d'enfant, comme chez Marianne, pendant une heure, c'est inhabituel. La brigade des mineurs dit en général, nos pédophiles, nos clients, entre guillemets, ils font vite leur affaire et puis ils se barrent au bout de 10 minutes. Et pas lui. Lui, il s'installe. Il s'installe à une boum d'enfant. Il s'installe dans cette boum pendant 2 heures.
Ah bah oui, il faut qu'on parle de la boum quand même.
Ah oui, j'aimerais bien.
L'histoire.
Ouais.
Parce que ça, c'est incroyable.
Mais la boum d'enfant, c'est le 1er avril 87. Cyril et ses petits copains, 13 ans, ils ont entre 11 et 13-14 ans. Ils organisent une boum un mercredi après-midi en l'absence des parents, dans le 11e arrondissement de Paris. Il y a un type qui se présente. Ils avaient affiché boum en bas. Il y a un type qui se présente comme un policier en disant « c'est le commissariat qui m'envoie, les voisins se plaignent, vous faites trop de bruit, maintenant ça suffit ». Il montre une carte qui n'est pas une carte de police. Les gamins voient que c'est marqué gendarmerie. Et après, il dit « bon, écoutez, vous pouvez continuer la boum, mais moi je m'installe, je vous surveille ». Et là, le type s'installe. Il pose son Colpiton 357 McDom sur la table. Il fait la vaisselle, il passe les disques et il est là et il fouille en même temps parce qu'il vole, hein, le grêlé, il ne fait pas qu'agresser sexuellement, il vole des objets, etc. Il fait le tour de l'appartement et il leur dit, si jamais quelqu'un rentre, vous dites que je suis le cousin de Cyril et que je m'appelle François. Il donne son véritable prénom. Ouais. Après sa véritable fonction de gendarme à l'époque. Il raconte qu'il est mono dans les colos de la gendarmerie. Enfin bon, toute cette histoire est incroyable et au bout de 2 heures, il fait déguerpir tous les gamins, sauf deux, sauf Cyril et sa petite copine Jennifer qui a 11 ans. Il les attache dans des pièces différentes, il viole Jennifer, il essaye de violer Cyril. Après, les gamins, Jennifer se détache, va délivrer Cyril pendant que l'autre est en train de voler des objets. Et les gamins sautent du balcon chez le docteur d'en dessous, du rez-de-chaussée. Et le type vole la voiture, le gendarme François vole la voiture du père, qui sera retrouvé le lendemain à Roissy-en-Brie, au fin fond de la Seine-et-Marne, et qui aura servi à enlever une jeune fille de 16 ans pour très certainement la violer, sauf qu'il s'est embourbé. Du coup, il a dû abandonner la voiture et la jeune fille.
Ce qui est dingue, c'est qu'il montre sans arrêt une carte de police ou de gendarmerie, mais qu'on n'a pas cherché un policier ou un gendarme. En tout cas, pas seulement, on va y revenir dans un instant.
La voix est livre.
Nicolas Carreau.
La voix est livre, toujours avec Patricia Touranchot pour son livre « Le grêlé, le tueur était un flic au seuil ». C'est un essai, certes, mais qui se lit comme un roman et qui revient sur toute l'affaire du grêlé qu'on a identifié à l'automne dernier, qui s'est suicidé avant de se faire attraper. Une enquête qui a duré 35 ans et on l'a dit tout à l'heure, souvent, selon les témoignages, il montre une carte de policier ou de gendarme. Mais on ne cherche pas vraiment de ce côté-là, en fait. Un peu, de temps en temps.
Un peu quand même en 87. Ben, ce qu'il y a en fait, il y a deux types d'enquêtes. En 87, il y a plein de jeunes filles qui sont abordées donc, par un policier qui prétend faire des contrôles sur des fugueuses, des enquêtes, etc. Il a un talkie-walkie, il a des menottes, il a tout l'attirail d'un policier. Ces enquêtes-là sont aux mains de la brigade de protection des mineurs qui enquête. Annie Podo, l'inspectrice, elle a l'intuition qu'il peut s'agir d'un collègue parce qu'il a le jargon, parce qu'il utilise des espèces de palpations de sécurité, de manière de procéder et le talkie-walkie qui dénotent quand même la profession. Sauf qu'elle va chercher à la police des polices. Mais qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche un type de plus d'1m80, athlétique, en blouson, avec des baskets. On lui dit, mais madame, vous n'avez pas assez d'éléments. Les flics, il y en a plein de ce profil-là. Donc, elle se heurte à un mur, finalement. Et puis après, quand même, à toutes ces jeunes filles qui ont vu la carte, et une maman aussi, et une grand-mère, la policière montre sa vraie carte de police. Et elle dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça ressemble à ça? Et non, ce n'est pas une carte de police. Mais à ce moment-là, elle va pas imaginer, ils ne vont pas imaginer que ça puisse être une carte de gendarmerie. Et puis, en parallèle, à la brigade criminelle, eux, ils ont des crimes de petites filles, Cécile Bloch, Sarah, dans des sous-sols, très sauvages, très violents, sans carte de police, sans cette ruse. Donc, le temps que toutes ces enquêtes soient réunies, ça va prendre des années et des années. Et dans l'enquête criminelle, finalement, ce n'est qu'en 1994, avec l'enlèvement d'Ingrid fin juin sur une route de Seine-et-Marne, par un type qui ne montre pas de carte, mais qui se présente comme un policier, qui la menotte, qui la kidnappe et qui la viole. Là, la brigade criminelle, le nouveau policier qui a repris, qui s'appelle Christian Lejallet, qui va enquêter jusqu'à encore aujourd'hui, à ce moment-là se dit, bah tiens, ça peut être une manière de policier. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'ils vont lentement chercher, se heurter à des murs. Et puis, ça rebondit vraiment que finalement, en 2018, là, que la nouvelle juge Nathalie Turquet, elle fait exhumer toutes les pistes, creuser toutes les pistes, et notamment reprendre le fil de cette carte et la lire à l'envers. Et dire, bah tiens, enfin, on inverse le paradigme. Ok, c'est peut-être pas une carte de policier, mais on l'a pris pour un faux policier. Mais si c'était un vrai gendarme, parce que les éléments de la boum de Cyril et le fait qu'il ait vu gendarmerie sur la carte avec un G en relief très typique, Ça fait que la CRIM va interroger des anciens gardes républicains de la cavalerie, qui ont été d'ailleurs dans le même régiment que Vérov. J'en ai interviewé un qui est sous pseudonyme, qui s'appelle Félix. Et lui, il dit, mais ce jet en relief, ça me rappelle nos anciennes cartes de la garde républicaine des années 80. Et là, voilà, à partir de là, les enquêteurs cherchent tous les gendarmes de la garde républicaine ayant été en caserne à Paris en 87.
Au moins une journée.
Et au moins une journée, c'est fou ça. Et il y en a plus de 2000. Et donc ils font un tri. Ceux qui n'ont pas le groupe sanguin à rhésus positif, on les exclut. Ceux qui sont trop petits, on les exclut. À la fin, il en reste 750.
Voilà.
Et sur tout le territoire.
Et ils lancent les filets comme ça.
Voilà, ils lancent les filets.
Sur toute la France.
Tous convoqués, et tous alors, pour un prélèvement d'ADN.
Un certain François Vérov,
en
plutôt sa femme, reçoit un coup de fil de la police qui lui demande de se présenter, mais sans l'accuser de rien du tout pour l'instant. Juste, il doit participer à...
Oui, il est convoqué pour être interrogé quand même dans le cadre de vieilles affaires criminelles, de viols et de crimes en région parisienne dans les années 80. Donc quand François Vérov va rappeler, après que sa femme lui ait dit, la police judiciaire de Montpellier dit oui, je suis bien un ancien garde républicain dans les années 80 à Paris.
Et là, vous racontez du point de vue justement, c'est pour ça que vous le racontez vraiment très bien dans le livre, du point de vue de François Vérov. Ça, on l'avait pas, je ne l'avais pas vu.
De sa femme
aussi.
Incroyable. Ouais. C'est-à-dire que là, la fin du livre, elle est plus centrée sur sa vie à lui, son parcours à lui et sa femme qui a été interrogée longuement sur 28 pages. C'est un procès verbal de 28 pages qui est absolument passionnant et que j'essaye de restituer dans un chapitre qui s'appelle « François en famille » où on découvre en fait ce type qui rencontre sa femme dans une boîte de nuit en 84 dans le nord de la France où il habite, qui a eu des soucis quand il était petit, mais voilà, qui devient un garde républicain avec tout le panache, etc., descendant des mousquetaires, qui participe sur son cheval racé au protocole de la garde républicaine, au Sénat, auprès de la présidence de la République. Enfin, c'est pas rien, quoi. Et puis, cette femme qui va vivre pendant 36 ans avec un homme qu'elle ne connaît pas. Et toutes les questions que lui posent les enquêteurs dans cet interrogatoire, elle ne sait pas. Et par exemple, sur les scènes de crime, il y a des mégots. On sait que le grêlé fume. Il a même torturé un couple dans le Marais qu'il a tué et massacré avec des cigarettes. On le voit, il est vu acheter des paquets de cigarettes.
Mais pour elle, elle n'a jamais fumé.
Ben non. Elle dit, mais non, François ne fume pas, mais jamais. Il ne fume pas, il ne boit pas, mais non, il n'a jamais été violent. Enfin, c'est...
Et quand il reçoit le coup de fil, c'est la routine.
Oui, il ne change pas.
Il n'en parle
pas.
Plus. Aucun, c'est dans trois jours.
Aucun changement. Aucun changement apparent. Il continue sa vie avec sa femme. Ils vont sur la plage se promener. Il file rendez-vous à Lyon pour un événement, enfin des amis. Il est vraiment. Mais je pense que dans sa tête, évidemment, il rumine. Là, il va être rattrapé par son passé. Il va être démasqué. Il a quand même deux enfants. Deux grands-enfants, dont une fille qui est policière, comme lui, il a été. Et donc, c'est épouvantable. Et donc, il fuit, il échappe. Voilà, moi, ce que je dis dans les livres, c'est que Vérov, il tue le grêlé.
On pourrait passer trois heures à vous écouter, Patricia Tourancheaume, parce que justement, c'est assez fascinant, cette affaire-là. Et votre livre est fascinant. Mais justement, est-ce que vous vous méfiez de la fascination pour les faits divers? Est-ce que parfois, vous vous dites, attention, là, je rentre dans une fascination qui... Il faut que je revienne... à la réalité et à l'horreur de l'histoire.
Alors, honnêtement, vous n'allez pas me croire, mais je n'ai pas l'impression d'être fascinée. Ça me passionne, ça m'intéresse beaucoup. Mais j'ai l'impression de garder quand même les pieds sur terre. Et peut-être c'est aussi parce que je suis en contact avec beaucoup de policiers ou beaucoup de victimes. Donc peut-être que je ne rentre pas... je ne suis pas subjuguée par les tueurs en série.
Ça reste de la réalité toujours
vous. Oui, franchement.
Ça ne se transforme jamais en fiction.
Non, j'ai pas l'impression. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est la fascination de certaines personnes pour les tueurs en série. Et ça m'inquiète. Et des gens qui m'appellent pour me fournir des pistes m'inquiètent au plus haut point dans leur délire.
Ah oui, vous devez recevoir des courriers.
Ah mais
oui,
y a des farfelus, il y a des cinglés. Il y a les gens qui cherchent réellement, qui veulent aider l'enquête. Et puis il y a des gens complètement givrés. Franchement, des femmes d'ailleurs, il y a des femmes aussi.
Le grêlé, le tueur était un flic. C'est au seuil. Restez avec nous, Patricia Tourancheaume. On va visiter tranquillement une bibliothèque sans meurtre, sans rien.
C'est bien.
Avec Frédéric Mitterrand dans un instant.
La voix est livre.
Nicolas Carreau.
La voix est livre, toujours avec Patricia Touranchot pour son nouveau livre, L'enquête sur le grêlé. Le tueur était un flic. C'est au Seuil. Vous êtes toujours avec nous, Patricia Touranchot, mais on va aller faire un tour dans une bibliothèque, si vous voulez bien. Frédéric Mitterrand vient de publier un livre qui s'appelle 1938, L'œil du cyclone, chez Ixo Éditions, qui s'intéresse donc, comme son titre l'indique, à cette année incroyable de basculement, 1938. Je voulais voir depuis longtemps de quel livre Frédéric Mitterrand se chauffait. J'ai pas été déçu. Bonjour Frédéric Mitterrand.
Bonjour.
Merci d'être de retour sur Europe 1.
Ah bah oui.
Momentanément.
Peut-être définitivement si vous arrivez à intervenir auprès des hautes autorités.
J'ai pas ce pouvoir. Vous seriez le bienvenu. On est chez vous pour visiter votre bibliothèque, mais en fait, votre bibliothèque, c'est votre appartement. On est dans une sorte de maison-livre, là. C'est-à-dire que les murs tiennent par les livres.
Non, les murs tiennent pas par les livres. C'est moi qui tiens par les livres. Et puis après, je tiens les murs.
Mais il y en a partout, il y en a absolument partout. Dans le couloir, on a regardé vite fait les pièces.
Oui, mais ils sont assez rangés, vous avez constaté.
Ah, c'est parfaitement rangé.
C'est pas parfaitement rangé, mais c'est assez rangé. Et puis alors, ça sédimente en fonction des livres que j'écris. Là, par exemple, cette petite bibliothèque, c'est le reste de toute ma documentation
sur Victor Hugo.
Sur les relations entre Victor Hugo et Napoléon III. Hmm. Voilà.
Là, on est dans le salon. Bon, il y a canapé, fauteuil, comme dans tous les salons.
Quoi s'asseoir, quand même.
Et puis, mais la moitié de la pièce, c'est donc une immense bibliothèque avec un petit bureau. Et ça, ce sont les beaux livres, les livres
alors,
de photos.
Oui, ce sont les livres de photos. Parce que je suis très, très attaché à la photographie, comme j'étais attaché, ou comme je suis toujours attaché, aux archives de films, pour voir le temps comme il se déroule. Et puis, alors, il y a quelques livres qui sont un peu glamour, comme ça, sur la vie des bienheureux de cette terre, qui ne sont pas forcément les bienheureux, d'ailleurs. Mais c'est surtout des livres de photos avec, je crois, des chaussures Brassailles, des chaussures... Surtout tous les photographes qu'on peut aimer, il y en a beaucoup.
Mais vous accumulez comme ça vos livres? Il y a une névrose qui se cache là-dessous, là ou...
Non, alors, il y a, paraît-il, un complexe. Le complexe de Diogène, je crois. Des gens qui ne peuvent rien jeter.
Voilà.
Et moi, je jette. Non, je jette. Mais chaque livre est une aventure. Celle de l'acheter, celle de le recevoir de la part de quelqu'un, celle de l'avoir partagé avec quelqu'un. Et donc, chacun des livres raconte une relation avec une personne que j'ai aimée ou que j'ai rencontré, avec qui c'était bien, ou des lieux que j'ai visités et qui m'ont plu. Voilà. Vous avez d'ailleurs des livres que j'ai achetés à New York, qui sont des livres sur des personnalités de la vie cinématographique américaine qu'on connaît mal, et qui sont des livres un peu démodés, qu'on achète pour presque rien. Et j'ai eu plusieurs retours de New York avec des excédents de valises effrayants, parce que j'avais acheté des livres des années 50 qui n'intéressent plus personne pour des prix modiques et dont j'adore à la fois le contenu et la maquette, ce qu'ils montrent.
Vous me faites une transition parfaite parce que je suis devant votre bureau, là, votre petit bureau à côté de la bibliothèque, en perpendiculaire. Et il y a une photo, une fiche signalétique de Brad Pitt et plein de livres et de magazines sur Brad Pitt.
Oui, ça, c'est le prochain livre que je vais écrire.
D'accord. Oui, incroyable. Pourquoi Brad Pitt ?
Il faut que je change un peu. Enfin, c'est pas du marketing. C'est parce que là, j'ai passé quand même 3 ans sur 38, l'œil du cyclone. Et en fait, je suis toujours à la recherche, à travers tous mes livres, tous mes récits, du héros ordinaire, du vrai type sympa, le vrai garçon, qui est courageux, sympa, honnête
chic
et tout. Oui, chic type, c'est un peu dévalorisant. Mieux que ça, vrai garçon. C'est-à-dire un peu aventureux aussi. Et parmi mes amis, je crois en avoir 2 ou 3. Et cinématographiquement, au fond, j'en ai un. C'est Brad Pitt.
Que vous ne connaissez pas, personnellement.
Non, mais que j'ai vu à travers beaucoup de films. Et après, je me suis beaucoup renseigné sur sa vie. j'ai réussi. Il est assez rare en interview. Et j'ai réussi quand même à apprendre beaucoup de choses sur lui qui m'intéressent.
C'est quoi votre film préféré avec Brad Pitt? Ah, ça dépend des périodes, peut-être. Vos trois grands films avec
J'aime
Brad Pitt.
Beaucoup le film qu'il a fait avec Redford.
Spy Game.
Oui, sur les pêcheurs à la mouche.
Ah, bah, et au milieu coule une rivière.
Oui, oui. Ça, j'aime beaucoup ce livre.
Qui est l'adaptation du livre de Norman MacLean.
Oui, que j'ai pas lu. Mais je trouve le livre tellement à contre-courant de tout ce qu'on
c'est
fait.
C'est le cas de le dire.
Oui. Et en même temps, c'est un film qui a marché d'ailleurs. C'est veut dire que. Il y a toujours d'autres gens qu'on ne connaît pas, qui sont comme nous, à contre-courant, et quelquefois on les rencontre.
C'est intéressant, parce que vous avez dit avec Robert Redford, et moi j'ai dit Spy Game, vous, et au milieu coule une rivière. Oui. Or, ce sont deux films avec Robert Redford et Brad Pitt, et ils ont une filiation comme ça, très directe.
Une sorte de filiation spirituelle.
Ouais.
On a dit qu'ils avaient même une filiation physique, dans la mesure où ils sont l'un et l'autre très beaux. Et qu'ils se ressemblent un peu, mais ça, je ne crois pas beaucoup.
On va avancer dans la jungle de votre bibliothèque appartement.
Oui.
Mais juste avant, j'ai remarqué qu'il y avait des tableaux, des photos, des cadres, enfin,
oui.
Sur tous les murs.
Oui, oui.
Et c'est vraiment...
Non, parce que d'abord, il y a des souvenirs de famille auxquels je suis attaché. Et puis, il y a pas mal de dessins de Pierre Le Tan, qui est pour moi un des grands illustrateurs de notre temps. Et qui était par ailleurs, je dis ça parce qu'il est décédé il y a 2 ans, il était par ailleurs le grand ami alter ego de Patrick Modiano. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. J'ai d'ailleurs un très joli livre qu'ils ont fait ensemble, qui est là, qui vous amuserait beaucoup sans doute, mais il faut que je sorte. Non, mais ils ont fait ça, par exemple, les albums d'une vie ensemble, rencontre d'une vie. Et puis ils ont fait un livre très très amusant qui s'appelle Poupée blonde, qui est un faux programme de théâtre ensemble. Et tout est faux. Et ça a l'air de ces programmes qu'on achète dans les théâtres. Tout est faux, les publicités, le texte, tout. Et voilà.
Je vois pas beaucoup de livres anciens, alors que je m'attendais à toute une bibliothèque de livres au 19e et tout.
Non, je suis pas comme ça. Mon oncle était comme ça.
Ben mais... voilà, c'est ce que j'allais dire. Je suis allé à la vente sans pouvoir rien acheter, malheureusement, mais de François Mitterrand avec des livres anciens incroyables, avec des envois et tout ça. Vous, vous n'êtes pas fétichiste comme ça du livre ancien?
Je suis beaucoup plus pauvre.
Mais ça vous intéresserait ou pas tellement?
Pas vraiment.
En fait.
Pas vraiment. Pas vraiment. Je comprends très bien qu'on s'intéresse à ce genre de choses, mais. Je comprends même excellemment bien, puisque mes frères ont racheté 2 ou 3 livres à la vente des François Mitterrand pour me les offrir. Mais en fait, pour moi, les livres sont une chose tellement vivante que je préfère me concentrer sur ce qu'il y a à l'intérieur.
Mmh.
Voilà.
Il y a des livres partout, je suis un peu perdu, je dois l'avouer.
Non, tu n'es pas perdu.
Il y a la négresse captive sur la cheminée.
Oui, mais ce n'est pas un livre, ça.
Non, mais j'essaye de trouver des raccourcis.
Là, vous avez les livres.
Ah, là, on passe dans une petite...
C'est l'entrée.
Dans la porte, mais qui est encadrée par 2 petites bibliothèques.
Oui.
Là, c'est la musique.
C'est la musique, oui.
À ma droite. Et là, à ma gauche...
Les arts plastiques.
Les arts plastiques.
Et là, vous avez la littérature américaine.
Ah.
Anglaise et américaine.
Ah, wow.
Alors, vous avez Gore Vidal. Ce sont des livres écrits en anglais.
En anglais,
hein. Oui.
Vous lisez en anglais.
Oui, assez bien. Livre sur Cole Porter. Mais dans les livres de photos, j'ai un très joli livre de photos sur Cole Porter. Et alors, vous me disiez tout à l'heure, une des raisons pour lesquelles, vous voyez, moi, j'ai fait une émission avec Henri-Louis de Lagrange. Chaque fois que je regarde ses livres, je pense à lui. Donc, c'est une manière de me souvenir.
Oui, c'est ça, de regarder une tranche de livres, parfois, ça fait surgir un univers, ou en tout cas des souvenirs.
Là, il y a les livres sur Paris, là, vous voyez.
Là, on progresse lentement dans le couloir.
Oui, lentement.
Et j'ai l'impression d'être avec une machette, vous savez,
pour entrer entre les livres,
comme ça, là, pour avancer. Et il y a justement, de l'autre côté du couloir, il y a un grand tableau avec une dame très belle.
Oui, c'est un...
Qui est-ce ?
Non, je ne sais pas. C'est un élément de décor, à mon avis.
Théâtre ?
Oui, de théâtre, oui.
Et pourquoi vous l'avez ramené ici ? Parce qu'il fait 2,50 m de haut.
Ça, c'est décoratif, ça tient bien.
Vous avez l'air de dire que c'est un truc qui est arrivé comme ça, mais il y a une histoire, là, quand même.
Bah, oui, je l'ai vu et je l'ai acheté, mais très, très peu cher, au puce, il y a longtemps, je veux dire. Non, c'est joli, c'est assez sympathique à regarder. Et c'est surtout c'est mystérieux parce qu'on ne sait pas ce que c'est en fait. C'est sans doute un élément de décor. Une femme au bord romantique, au bord d'un lac. Tout ça peint d'une manière un petit peu floue. Ouais, ça vous convient très bien.
Ah ouais, c'est beau, très beau. Encore des photos. Oh bah tiens, c'est quoi ce cadre avec
Ça c'est un article de Marguerite Duras qu'elle a publié il y a 30 ans dans Libération. J'ai trouvé que le titre était beau et que le texte était très beau aussi.
C'est fou ce que je peux t'aimer, oui, Marguerite Duras.
C'est totalement durassien. C'est fou ce que je peux t'aimer, c'est une phrase aussi empruntée à Édith Piaf. Voilà. Il y a un lien entre Marguerite Duras et Édith Piaf. Hein.
Lequel?
Elles étaient petites, elles, taille, aimaient, dire, elles ouais. aimaient les hommes. C'est pour simplifier. Mais oh je ben. Peux vous en trouver d'autres. Si vous...
Je veux bien.
Non. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu...
Ça ne m'avait jamais sauté aux yeux.
Ça vous avait jamais sauté aux yeux? Mais vous avez jamais entendu un interview d'Édith Piaf?
Je crois pas, non.
Ben, elle parle le français absolument admirable. Un français admirable. Français populaire admirable. Et l'émotion affleure sans cesse. Comme lorsque Marguerite Duras parle.
Il y a une autre clairière là dans laquelle on arrive.
Oui, alors c'est la pièce où j'ai mon ordinateur.
Donc ça, c'est le bureau avec ordinateur.
Voilà, le bureau ordinateur.
Le bureau
ça,
du
ça
salon.
Ça sert aussi de chambre d'amis éventuellement.
Et vous écrivez différents types de livres ou c'est juste que vous reportez sur ordinateur ce que vous avez écrit dans le salon?
Non, l'ordinateur ne me sert pas à écrire, j'écris à la main. L'ordinateur me sert à me renseigner.
Ah d'accord, c'est une sorte, c'est votre CDI ici en fait.
Voilà, exactement.
C'est votre centre de documentation.
Oui, c'est ça. C'est l'intendance, disons.
Il y a encore beaucoup de livres, des livres d'histoire.
Alors ça, c'est, ce sont les livres d'histoire ici, essentiellement. Voilà.
Vous avez un exemplaire du dictionnaire Moore qu'on trouve dans toutes les bibliothèques historiques.
Oui.
Vous aimez ce genre de dictionnaire? Vous y allez souvent?
Oui,
ou est-ce qu'avec Internet, bon?
Internet incite à la paresse et à chercher plus vite. Mais il faut pas être prisonnier de ça. Il faut essayer de continuer à bien compulser les livres.
Et à la fois, c'est vrai que c'est pratique, Internet. Maintenant, on peut aller voir les manuscrits, les livres de la BNF directement.
Mais je ne fais pas ça, moi. Je préfère musarder, mais musarder d'une manière très, très systématique, quand même.
Et étonnamment, il faut la mettre à jour, l'histoire.
Oui, bah, la preuve.
Donc un Moore qui date un peu, il est presque obsolète en fait.
Un mot qui date un peu.
Un dictionnaire Moore.
Ah, un Moore, je pensais que c'était amour.
Amour qui date un peu. Ça commence comme un poème. Ouais.
Et amour qui date un peu, il faut aussi le
mettre à jour.
Mettre à jour.
On est en train de composer un poème pas mal là tous les deux. Non, c'est vrai, c'est intéressant ça de se dire que l'histoire doit être mise à jour régulièrement.
Oui, l'histoire doit être mise à jour régulièrement. Vous avez bien raison. C'est ce que j'ai essayé de faire en écrivant mon livre. Et je crois que ça marche assez bien.
Là, vous avez toute une bibliothèque uniquement de biographies.
Non, pas uniquement de biographies. Oui, il y a des biographies, mais en histoire, il y a beaucoup de biographies parce que pour comprendre. Mais bon, il y a aussi des livres sur les.
C'est plutôt la royauté ici.
Ça, c'est la période. Vous avez la Troisième République. Hein.
Alors, vous classez comment vos livres d'histoire? Par période?
Plutôt par période, oui. Plutôt par période. Mais là, c'est un peu en descente. Simplement, ranger une bibliothèque, ça prend un temps fou.
On a dû vous demander ça 1000 fois, mais dans quelle période de l'histoire vous auriez aimé vivre?
Alors, sans doute, comme quelqu'un dont vous allez voir des livres dans un instant, sans doute comme la comtesse de Boigne, qui a vécu de la Révolution à Louis-Philippe.
La comtesse de Boigne, on va en parler tout de suite parce que, en fait, on a fait un tout petit tour avant d'allumer les micros et j'ai vu deux très beaux livres anciens qui sont sur votre table de chevet.
Oui.
Et vous m'avez dit, il faut absolument lire ça. Je vous ai dit, taisez-vous, vous me le direz au micro.
Oui.
Alors, on peut y aller maintenant. C'est les mémoires de la comtesse de Boigne.
Oui, alors ça fait partie de ces livres de mémoires qui ont été publiés. Republiés, puisque c'est des livres qui sont anciens et un peu des classiques déjà, mais qui ont été republiés par Madame Gallimard.
Autant retrouver Mercure de France.
Oui, collection formidable. Et donc La Comtesse de Boigne, c'était un des grands livres de la série. Ça, d'ailleurs, je crois, a été un best-seller à sa manière.
Deux tomes qui font bien 600 pages.
Alors, La Comtesse de Boigne, c'est très intéressant parce que c'était une aristocrate avec des préjugés d'aristocrate, sous Louis XVI, présenté à la cour, mais qui va vivre jusqu'à l'époque de Louis-Philippe, qui va tout traverser. Et comme elle est très intelligente, quoique assez réactionnaire, elle dépeint les temps dans lesquels elle vit avec une acuité extraordinaire. Elle fait des portraits, des personnages formidables. Et comme elle est aussi dévorée de curiosité, elle fait partie des émigrés qui vont essayer de rencontrer Napoléon. Et notamment une description absolument extraordinaire d'un bal donné par Napoléon. Napoléon essaye de la séduire parce qu'il a compris tout de suite que c'était une femme intelligente et intéressante. Et où elle décrit avec une acuité incroyable la vulgarité et la force et la puissance de tous les traîneurs de sabre qui étaient autour de Napoléon, qui sont un peu comme les oligarques autour de Poutine, en quelque sorte, qui avaient mis à sac toute l'Europe, mais qui étaient très riches, puis qui étaient puissants, souvent intelligents et braves, mais qu'elle trouve quand même vulgaire, c'est une aristocrate à préjugés. Et au moment, au milieu de la fête, arrive Joséphine. Et Joséphine est une femme de son milieu, à elle, la comtesse de Boigne, une aristocrate qui a échappé à la guillotine. Et tout d'un coup, tout se transforme. Tout d'un coup, la soirée vulgaire devient gracieuse, les hommes se redressent, deviennent polis, et elle ramène un peu du passé délicieux. Mais bon, du passé délicieux qui n'était pas délicieux pour tout le monde. Hein. Non, mais en face, vous avez l'équivalent pour moi de la comtesse de Boigne. Vous avez le livre de Marc Fumaroli, son dernier livre. Je suis un grand fanatique de Marc Fumaroli.
Sauf que lui n'a pas vécu au 19e.
Non, il a vécu à notre époque. C'est pour ça que je vous dis que j'aurais pu vivre, j'espère que je ne me serais pas fait guillotiner, j'aurais pu vivre à cette époque-là, mais l'époque dans laquelle je suis me convient aussi, parce que j'y trouve autant de motifs de révolte, de colère, d'ennui, d'intérêt, de passion que Marc Fumaroli.
Il y a plein de romans là sur votre table de chevet. Il y a Portnoy et son complexe, oui, en édition de chevet, poche, ça. Et qui a bien bien vécu, qui a été lu plusieurs fois, même,
oui, je peux emmener
mâchonné, jauni.
Non, mâchonné, non, n'exagérons pas, mais emmené.
Déchiré un peu.
Emmené avec soi partout, oui.
Pourquoi Philippe Ross et pourquoi Portnoy et son complexe?
Parce que c'est un livre extraordinaire. C'est un livre extraordinaire qui objective la sexualité et en fait quelque chose... C'est pas très compliqué, mais lui, il le fait avec un style inimitable. On fait quelque chose de romanesque. Voilà.
J'allais vous demander, en tant qu'ancien ministre, et puis aussi, quel est le terme d'ailleurs, président de la Villa Médicis ?
Directeur.
Directeur. Oui. Vous avez dû rencontrer des grands écrivains, puis en tant que journaliste aussi.
J'ai rencontré beaucoup de gens.
C'est quoi votre plus grand souvenir d'écrivain, d'homme, je veux dire, en rencontrant un homme ou une femme d'ailleurs, mais... de personnalité d'écrivain.
Alors, bien que ce ne soit pas un très, très grand écrivain, sa personnalité m'a enthousiasmé. C'était Nadine Gordimer, qui a eu le prix Nobel, quand même. Mais elle l'a eu peut-être pour des raisons un peu politiques, dans la mesure où elle était un grand écrivain anti-apartheid dans l'Afrique du Sud. Mais j'avais été frappé par le caractère lumineux du personnage. Autrement, la liste des grands écrivains que j'ai pu rencontrer est assez importante. Je faisais des interviews, donc on restait quand même un peu à la surface des choses. Et au fond, je garde le souvenir d'interviews formidables, notamment à Europe 1, où j'avais la chance de pouvoir les faire. Mais rien ne vaut la découverte d'un livre.
Mmh. Oui, c'est pas toujours utile de rencontrer un écrivain. Non, au mieux lire son livre.
Non, alors c'est utile pour une chose, c'est si on peut arriver à faire partager à d'autres gens. C'est quand même le but. Quand on fait une émission avec un écrivain.
Non, mais pour soi-même, je veux dire.
Ah, pour soi-même, le mieux, ce serait de jamais rencontrer personne.
Bon, on n'a pas suivi votre conseil parce qu'on est venu vous rencontrer et rencontrer vos livres. Merci beaucoup.
Mais il vous en manque beaucoup encore.
Ah ben oui, mais on n'a pas le temps de tout faire. Je vais avoir trop de regrets après.
Livres de cinéma. Ouais.
On n'aura pas le temps. Bon. On a parlé de Brad Pitt.
Oui, on a parlé, et on n'a pas parlé d'Henri Michaud d'ailleurs.
Ah, bah on peut terminer sur Henri Michaud, ça me fait plaisir. Formidable. Qui est aussi sur votre livre de chevet.
Oui, mais ce sont des petits récits très courts et absolument à mourir de rire. C'est très très drôle. Ce sont des utopies, il invente des personnages, des pays, des histoires totalement imaginaires qui ressemblent à des histoires vraies.
Vous nous en liriez un très court comme ça ?
Les écoravettes servent de guide, non de servante ni de porteuse, au passage du marais d'Op. Les passes changent avec la saison et jamais les hommes n'ont été aussi bons qu'elles à retrouver les îles et les terres pleins de ces chemins changeants. Elles posent de ci, de là leurs petits pieds avec sensibilité et interrogation contre des oreilles prolongées. Et puis on passe. Voilà, j'ai pas très bien lu, j'ai pas mes lunettes.
Merci beaucoup Frédéric Mitterrand.
Merci à vous Henri Michaud.
Retour en studio et je rappelle 1938, L'œil du cyclone chez Ixo, c'est le nouveau livre de Frédéric Mitterrand. Patricia Tourancheau, comment sont rangés les livres chez vous et quels livres? Parce que c'est des trucs de faits divers, de police, ou alors vous avez des livres qui n'ont rien à voir avec ça?
Alors, j'ai des livres qui n'ont rien à voir avec ça. J'ai des étagères, j'ai un plafond, enfin des étagères qui font 3,30 m sous plafond.
Avec un petit escabeau.
J'arrive même pas à attraper ceux du haut, où j'avais relégué des livres que j'aimais pas trop. Il y a énormément d'essais de documents sur des faits divers qui sont rangés, par exemple, j'ai une étagère milieu marseillais, milieu corse, une autre grand banditisme français, une autre les histoires de poison, une autre ce sont les histoires d'escroquerie, les prisons, l'époque de grand banditisme des années 70, donc tous les livres sur Jacques Mérine, Action Directe, etc. Donc j'ai des livres de psychiatres qui analysent la chose, beaucoup de livres de police, toutes les mémoires de policiers du 36 Quai des Orfèvres et autres. J'ai aussi des romans, j'ai beaucoup de livres de James Ellroy notamment.
Ah oui, quand même.
Ah bah oui, quand même.
C'est toujours plus ou moins lié quand même.
Non, j'ai plein de romans américains que j'adore. J'ai une rangée aussi, Truman Capote, évidemment. Et puis des livres un peu particuliers, genre La journaliste et l'assassin. Non, Le journaliste et l'assassin de Janet Malcolm,
ouais,
que j'adore. Un autre là, Le journaliste et le meurtrier, pareil sur un journaliste américain qui rentre en contact avec un tueur, puis finalement les deux vont mentir, enfin c'est assez édifiant. Là c'est un livre, Le fait divers et ses fictions, de Frédéric
Poudoir. Que vous nous avez amené, c'est gentil.
Sur la pierre. Oui, parce que tout à l'heure, enfin, je voulais relire un truc dedans. Donc, c'est un peu monomaniaque quand même, mais en même temps très varié. J'ai beaucoup de bandes dessinées aussi.
Mais alors justement, cette passion pour le fait divers, ça vous rassure ou alors vous avez l'impression de vivre dans un monde d'horreur, quoi? Quand vous sortez de la rue, vous voyez des tueurs partout. Ou alors au contraire, comme vous les connaissez, vous savez que c'est assez rare, heureusement, de tomber sur un tueur en série au coin de la rue.
Exactement, et je suis d'un naturel optimiste. Et je dirais que de m'occuper d'histoires très noires comme ça, qui ne sont pas que noires, hein, parce qu'il y a aussi un côté humain qui est très attrayant et très chaleureux dans toutes ces histoires. Et les histoires de banditisme, c'est plus distrayant, disons. Mais moi, j'ai tendance à me dire, quand il m'arrive quelque chose personnellement de très dur, je relativise et je me dis, mais attends, ça pourrait être tellement plus grave, regarde. Et du coup, je prends le dessus tout de suite.
Restez avec nous, Patricia Tourancheau. On trouvera sans doute des livres de faits divers chez notre libraire Anne Burzinski à Vaucresson. On y va dans un instant.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, Patricia Tourancheau est notre invitée pour son livre Le Grêlé, le tueur était un flic au seuil. Il est temps de rendre visite à notre libraire Anne Burzinski cette semaine à la librairie L'Écriture à Vaucresson. Bonjour Anne.
Bonjour Nicolas.
Alors, deux coups de cœur aujourd'hui. Oh mais dites donc, mais vous êtes pris pour Thibaut Radène. Je vois de la littérature japonaise.
Mais c'est pas... Il n'a pas le monopole de la littérature japonaise, ni même de la littérature russe d'ailleurs.
Alors, qu'est-ce que c'est?
Alors, un sandwich à Ginza, c'est un petit texte hybride. J'adore, c'est à la fois une sorte de récit de voyage, de récit de gourmandise, de roman graphique aussi. L'autrice a déambulé dans les rues de Tokyo, et dans le Japon en général, mais surtout à Tokyo. Et elle est allée voir les petits quartiers, les gens qui l'animent, les restaurateurs, les spécialistes, etc. Et elle nous fait découvrir ce Tokyo insolite par les petites rues, par les endroits charmants et par la nourriture. C'est vraiment une épicurienne, il y a vraiment ce côté récit de gourmandise, mais gourmandise de la vie aussi. Et on se régale en fait par les yeux, et par, que ce soit par le texte et par les dessins, puisqu'elle elle est une proche de Taniguchi qui a illustré le livre. Donc c'est un livre, comme on disait, qui est aussi graphique et qui est magnifique en fait, et qui vous donne tellement envie de baver et de manger.
Ah oui, c'est vraiment hybride. C'est pas du tout une bande dessinée, c'est pas non plus vraiment un roman graphique. Il y a beaucoup, beaucoup de pages sans images et puis de temps en temps, hop, une petite planche de bande dessinée.
Ouais, parce que Taniguchi va déguster avec elle et donc il illustre de temps en temps certaines scènes qui vivent ensemble. Et sinon, c'est sous la forme d'un espèce de journal où on la voit déambuler et où elle nous raconte « je suis allée dans tel restaurant, j'ai rencontré telle personne », etc. Et alors les gyoza, l'anguille, les tempuras, enfin vous allez voir, et même la bière. Il y a vraiment des amateurs de bière, et ça, peut-être qu'on le sait moins, mais un vrai petit bijou. Et alors vraiment, pour les épicuriens comme moi, je vous dis, c'est une gourmandise de la vie, quoi. Enfin.
Alors, un sandwich à Ginza, c'est chez Piquier Poche, illustré par Taniguchi, et l'auteur, l'autrice, c'est Hira Matsu Yoko. Ensuite, Claire Bochard, le manuscrit MS 620, avec le coup de cœur d'Anne Burzynski. En bandeau du livre.
Ah ouais.
Et c'est à la filature.
S'il vous plaît. Alors, le manuscrit MS 620, c'est assez différent de ce qu'on lit d'habitude. Enfin, on en voit quand même des... Là, c'est un roman codé, en fait, un roman à énigmes. En polar, on en lit de temps en temps, mais finalement pas tant que ça. Et là, c'est l'histoire d'une femme qui a laissé un manuscrit codé quand elle était en fait sur une île en exil, enfermée en fait, en une île prison, une île paradisiaque mais prison. Et elle avait a priori un message à laisser, mais elle voulait pas qu'il soit décrypté trop facilement. Donc elle a écrit, elle a laissé tout un manuscrit dans un espèce de latin avec des petits symboles, des petites femmes dessinées. Et ça, il y a trois personnes à différentes époques qui vont essayer de le décrypter parce que c'est très compliqué et qui vont essayer de comprendre quel est le secret de cette femme, en fait. Et donc, on se laisse emporter. C'est une dynamique qui est très intéressante. C'est très maîtrisé. En même temps, c'est extrêmement facile à lire. Donc, c'est une vraie découverte.
Le manuscrit MS 620. Mais donc, c'est une sorte de thriller, pas vraiment ?
Je sais pas si... Oui, c'est une sorte de thriller, mais vraiment le côté... roman codé, c'est-à-dire qu'à chaque époque, les personnages sont intrigués par l'histoire de cette femme. C'est une espèce de gros point d'interrogation qui est dans notre livre. C'est ça qui nous tient, c'est ce suspense-là. Et en fait, c'est comment chacun va réussir à rajouter des éléments et à comprendre certains éléments que les autres n'avaient pas, jusqu'à ce que nous, on arrive à tout décrypter. Mais ce qui est impressionnant, c'est le travail que Claire a fait, justement, donc l'autrice, a fait pour inventer ces codes et après nous les décrypter. Et en fait, c'est assez fascinant tout ça, c'est très bien construit.
Alors, le manuscrit MS 620, ça c'est l'énigme à code, genre Da Vinci Code, mais en plus poétique. Et c'est à la filature. Et puis donc, on a dit un sandwich à Ginza qui est magnifique, qui est un petit bijou comme ça, vraiment un livre de poche au sens propre, c'est-à-dire qu'on peut le mettre dans sa poche comme un paquet de bonbons.
Exactement.
De Hira Matsu Yoko, un sandwich à Ginza. Merci beaucoup Anne Burzynski.
Merci beaucoup Nicolas, à bientôt.
Retour à Europe 1 avec Patricia Tourancheau, je rappelle, pour son livre « Le Grêlé, le tueur était un flic » au Seuil. Et nous a rejoint Sébastien Bordenave et ses deux bandes dessinées de la semaine. Bonjour Sébastien.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour Patricia.
Bonjour.
Quel est le programme ?
Eh ben, la première BD, c'est une première BD. Elle s'appelle « Comme une grande », on la doit à Maëlle Réa qui sort, donc vous l'avez compris, sa première BD.
Bravo.
Une BD singulière parce qu'elle touche à ce moment délicat de notre vie où on n'est manifestement plus un enfant, mais pas encore totalement à l'aise dans des habits d'adulte. Comme une grande raconte l'histoire de Marie. Elle vit cette délicate épreuve qu'on appelle communément l'entretien d'embauche. Alors le recruteur a bien regardé son CV, mais tel un tortionnaire light, il a quand même envie de poser quelques petites questions supplémentaires pièges du genre « Mais est-ce que vous avez vraiment l'esprit d'équipe ?» Alors l'originalité géniale de cette BD, c'est ça, c'est qu'à chaque question du DRH, Marie va se plonger dans les épisodes passés de sa vie. La séparation de ses parents, ses histoires d'amour qui finissent mal, le rêve d'être actrice. Bref, c'est beau et émouvant comme du cinéma intelligent. Et je ne dis pas ça parce que l'éditrice de la BD n'est autre que Sonia Deschamps, qui a longtemps été notre collègue ici à Europe 1.
C'est la nouvelle collection de chez Rivage.
Exactement, Nicolas. J'imagine que vous vous joignez à moi pour l'embrasser chaleureusement.
Oui. Magnifique. Voilà. Elle a eu le poste ou pas à la fin dans la BD ?
Ah, je ne spoil pas.
Voilà. La deuxième.
La deuxième BD, elle est signée François Bouc. Alors, pour qui s'intéresse un peu à la BD, François Bouc, c'est un maître absolu des perspectives, des visages, des corps, des muscles, des mouvements. Et pour cette nouvelle BD, il a décidé de s'attaquer à un sujet divin.
Le papa dit que l'acte d'amour
sans être marié, c'est un péché, on sait.
Production, c'est incroyable.
Mais là, le pape, eh ben, il s'appelle le petit pape Pi 3,14. C'est le nom de la BD. Et c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup des papes qui se sont appelés Pi.
Pi 7,
qu'on fait beaucoup rigoler les enfants. Pi 12, qui a été un petit peu germanophile pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, bah, c'est Pi 3,14. Bah, pour résumer la blague, c'est pipi. Voilà. Alors, ce pape, eh ben, il est tout petit. Il lui arrive plein d'aventures totalement loufoques. Il fréquente Superman.
C'est Fluide Glacial.
Édition Fluide Glacial. Donc, ce pape, il est aussi sollicité pour faire des exorcismes de zombies. C'est très drôle. Ça m'a donné d'ailleurs l'envie de savoir pourquoi on disait Pi.
Ah oui, tiens.
Eh ben, en fait, ça vient du latin. Ça vient du latin
pour 3,14.
Pius, qui veut dire pieux, tout simplement.
Ah,
c'est aussi bête comme
chou. Pour les papes, vous dites pipo, d'accord.
Exactement. Alors, sachez que pour cette BD, vous avez le choix. Vous pouvez l'acheter soit en version couleur, soit en version noir et blanc. François Bouc, qui a longtemps travaillé dans les années 80 à Fluide Glacial avec quelques dessinateurs, eh ben, ils ont longtemps demandé au maître Gottlieb qui est la couleur dans la revue Fluide Glacial. Eh ben, elle n'est arrivée qu'en 2003. Je trouve ça dingue.
Incroyable.
Voilà, vous l'avez compris, le vrai pape de la BD, c'est François Bouc. Il a déclaré que si un jour il devenait lui-même souverain pontife, il referait toute la chapelle Sixtine pour faire respecter la parité dans les œuvres de Michel-Ange et qu'il ferait aussi remplir les piscines d'eau bénite pour y organiser les Jeux paralympiques. J'ai envie de dire amen.
Vous nous rappelez les titres ?
Allez, comme une grande de Maël Réa, publiée au Virage Graphique. Et chez nos amis de Fluide Glacial, le petit pape Pi 3,14 de François Bouc. C'est pour vous, c'est cadeau, Patricia.
Merci beaucoup.
On se quitte avec la citation BD. C'est un couple dessiné par Claire Bretécher. L'homme dit « Trois mômes de deux mères différentes. Tu crois que j'ai pas assez de problèmes comme ça ?» Et la femme de répondre « Et alors, t'as déjà fait trois débiles à deux tarés. Tu peux bien m'en faire un à moi aussi. » Voilà, bon dimanche.
On dit Bretécher ?
Bretécher. Il y a plusieurs écoles.
Ouais. Et Patricia, vous lisez des BD aussi, vous m'avez dit tout à l'heure, dans votre bibliothèque. Là.
Ouais. Alors, je suis fan de Corto Maltese, d'Hugo Pratt, évidemment. Et toutes les BD de Bilal et Christin, les premières BD, j'adorais. Et depuis, j'en lis alors un peu des trucs divers. Quoi. La BD sur Sarkozy, par exemple, j'ai adoré. Là, il y a une BD d'une copine, Brigitte Vittel-Durand, sur Patrick Dils. L'innocent, enfin, qui a été accusé vraiment à
Oui, il y a beaucoup
tort.
De faits divers, d'histoires de faits divers
de
qui sont adaptées en bande dessinée. D'ailleurs, la camarade Christophe Fondelat en a commis une.
Bien sûr, et on m'avait demandé d'être directrice de collection d'une collection de BD justement sur des faits divers.
Et alors
ça ne s'est pas fait, puis je n'ai pas trop le temps en fait. C'est très long de faire des BD.
Ben oui, vous n'avez pas le temps parce que vous écrivez, vous enquêtez, et je conseille vraiment, ça se lit, mais c'est incroyable. On en sort de ce bouquin un peu groggy, mais c'est passionnant. Ça s'appelle Le Grêlé. Le tueur était un flic au seuil. Merci beaucoup, Patricia Tourangeau.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpeuch pour la programmation musicale. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1.